On vient d'entendre de l'album Aimer le mal des vulgaires machins, la chanson Capital. Je sais pas si vous avez entendu les paroles, mais ça disait ce qu'on sait pas nous fait pas mal. Ben avec délirium environnemental, vous allez le savoir parce que nous autres, on vous en parle.
Vous allez avoir mal.
on continue la revue de presse, revue de l'actualité. On parle d'un sujet qui est tellement stigmatisé, un sujet qui fait tellement dire des niaiseries à tellement de monde, c'est incroyable. Les organismes génétiquement modifiés, ou plus précisément, selon le nouveau lexique, pour ne pas faire peur à la population, nous parlons maintenant de produits issus du génie génétique. Un petit sondage au niveau canadien est venu nous révéler certaines petites choses. Nicolas Milot, t'en as pris connaissance pour nous. Qu'est-ce que t'as appris?
Très rapidement, l'Office canadien des biotechnologies a sondé sa population, la population canadienne, pour savoir ce qu'on pense des biotechnologies en général. En somme, je vais passer très rapidement sur le volet biotechnologie. Une grande majorité des Canadiens considèrent que c'est important de pousser généralement les biotech. Donc, que ce soit au niveau de la pharmaceutique, des OGM, je m'avancerai pas trop là-dessus parce que le sujet est encore très, très médiatisé et débattu sur la scène publique.
Mécompris aussi.
Mais bon, les biotech en général. Pour ce qui est des OGM, eh bien, 60% des personnes au Canada croient que les aliments qui sont issus du génie génétique présentent plus de risques que d'avantages. C'est intéressant de savoir qu'on n'est pas tout seul et que 60% de nos concitoyens partagent cette vision-là. 53% ne se sentent pas confortables lorsqu'ils achètent des aliments issus du génie génétique.
Surtout qu'ils ne savent même pas.
Et il faut noter qu'il y a 5 ans, c'était 31%. Donc, il y a un double au niveau des résultats. Et finalement, 75% veulent l'étiquetage obligatoire des OGM. On sait que des fois, on a un chiffre beaucoup plus important que 75%, donc il peut être mis en perspective. Et la dernière donnée peut-être intéressante, c'est que comparativement à nos voisins du Sud, nos amis états-uniens, eh bien, la population canadienne semble beaucoup plus préoccupée par les éventuels effets néfastes des OGM. Quoique en même temps, les États-Unis n'ont pratiquement aucune donnée là-dessus. Ils ne savent même pas, puis ils en mangent à 75%. Donc, est-ce que ça veut réellement dire quelque chose? On pourrait peut-être se comparer plus avec la France ou un pays en Europe pour avoir vraiment une bonne idée de notre perception des OGM.
Tout à fait, parce qu'aux États-Unis, avant d'avoir une perception de quelque chose, on doit nommer ce quelque chose. Aux États-Unis, on n'en parle juste pas, donc les gens ne peuvent pas se mobiliser sur ces enjeux-là. Merci beaucoup. Donc ça, c'était... Qui a fait ça?
C'est l'Office canadien des biotechnologies.
Et ça sera disponible sur notre site Internet.
Bien sûr.
Ben, vous m'envoyez ravi. Merci beaucoup. Nicolas Mainville, donc ici, on s'en inquiète, mais partout ailleurs dans le monde, on ne s'en inquiète pas trop. L'Inde, la Chine, le Brésil, bon, chacun de votre tour, vous allez m'en parler.
On va faire un blitz de tous les pays.
Donc, il y a une espèce d'ouverture...
Des 660 pays du monde.
Wow, vous vivez sur une autre planète. Tout ça pour dire, mais pour ceux qui nous écoutent, il n'y a pas 660 pays autour de la planète, non. Bref, revenons sur la question des OGM, si vous le permettez. Certains pays qui avaient banni ou plutôt qui avaient interdit l'entrée d'OGM ou qui avaient refusé d'en cultiver, maintenant, s'y mettent.
Oui, en fait, je connais pas l'histoire de la Chine, leur relation avec les OGM. Ça fait déjà au moins 5 ans qu'ils développent des produits issus du génie génétique. Et ces produits-là, en fait, on en répertorie 353 en ce moment en Chine, qui sont testés sur le terrain. Mais ma nouvelle porte justement sur les gros investissements de la Chine et de l'Inde qui sont en train de se produire à ce moment même, pendant que je vous parle. Il y a des millions qui se discutent dans des tables, dans des bureaux, qui nous disent que la Chine et l'Inde sont en train de fonder plusieurs espoirs sur les OGM et sur le génie génétique pour combler les déficits alimentaires dans ces pays-là. Vous savez, il y a plusieurs problèmes d'alimentation. Tout le monde connaît ça, mais sauf qu'il y a quand même plusieurs espoirs qui sont fondés sur le fait de produire des super plantes qui vont super produire des super produits. Sauf que ce qu'on est en train de découvrir, c'est que la Chine maintenant est rendue seulement derrière les États-Unis au nombre d'investissements en millions de dollars. On parle de 112 millions de dollars l'année passée qui ont été investis pour les biotech. Eh bien, c'est 400% d'augmentation pour 2005, ce qui est prévu dans l'investissement dans les biotech. Donc, évidemment, ça laisse sous-entendre qu'il va y avoir une poussée assez flagrante de ce côté-là.
Pour ceux qui ne comprennent pas encore exactement là, pourquoi il y a lieu de s'inquiéter sur les organismes génétiquement modifiés qui sont maintenant partie prenante de notre alimentation, rappelez-vous la fois où est-ce qu'on vous a parlé des études. Donc, il y a environ seulement une dizaine d'études qui existe sur les impacts sur la santé sur des animaux, hein, c'est pas sur des humains, donc sur des rats qui ont une résistance aux toxines beaucoup plus grande que les humains. Mais surtout, c'est qu'il n'y a aucune étude longitudinale qui a été faite. Aucune étude ne dépasse 90 jours. C'est absolument inquiétant.
C'est impressionnant. Il y a même l'Organisation mondiale de la santé qui lance un appel en disant, c'est dans le Bangkok Post que je vais chercher ça, cette nouvelle, qui nous dit, écoutez, il faut vraiment faire plus de recherches sur les effets des OGM sur la santé. En ce moment, on connaît rien. On peut pas dire que les OGM sont bons, mais on peut pas dire non plus qu'ils sont pas bons. Et donc, c'est toute la question du principe de précaution. C'est de ça qu'on parle. À chaque fois qu'on parle des OGM, on est en train de manipuler quelque chose qui est relativement important dans la question biodiversité, mais aussi qu'est-ce qu'on ingère. Donc, il y a toujours ce risque potentiel qui serait malheureusement assez décevant dans l'histoire de l'humanité si on se retrouve avec une espèce de patate chaude comme des OGM qui ne marchent vraiment pas sur notre santé dans 10 ans.
Dans le magazine L'État de la planète de cet été, le mai-juin, il y avait un article qui concernait la culture de riz où est-ce qu'on avait intégré, donc on avait forcé, un gène humain. Donc, on mange du riz à l'humain dans ces petits champs laboratoires-là, hein, en souhaitant que ça ne s'épande pas. Non, mais sans faire, moi, de manger de l'humain, ça m'intéresse pas plus qu'il faut, là.
Si ça vous intéresse, en tout cas, il y a la FAO, la Food and Agriculture Organization des Nations Unies, qui est en train de tenir le forum global sur la sécurité et les régulations sur la nourriture. C'est une mauvaise traduction, mais bon, c'est en train de se passer en ce moment à Bangkok. Donc,
ben,
c'est pour
tu
ça
nous
que
en reparleras, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Au Brésil, qui avait été un fort anti-OGM notable, entre autres à cause de M. Lula, qui s'était affiché comme le défenseur des idées progressistes, semble-t-il que ça s'affaiblit un peu, là, la volonté politique d'interdire les OGM, Hugo?
Ben, en fait, c'est que M. Lula est un peu mal pris en ce moment. Il y a toute une population assez défavorisée dans le sud du pays qui cultive, et puis dans le nord du pays aussi, qui cultive le soja. Et puis, ils sont en pleine négociation au Congrès brésilien pour se développer une législation de biosécurité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, finalement, on a décidé pour la troisième année consécutive, donc Lula n'a jamais été tout à fait contre les OGM, pour la troisième année consécutive, on a décidé d'accepter la production et la commercialisation des OGM. Mais c'est vraiment une mesure entre-temps, d'ici à ce qu'on puisse avoir une loi précise et que comme ça, on soit moins qu'on se mette un peu à l'abri de toutes les poursuites, parce qu'on sait que Monsanto est assez vite sur le piton en termes de poursuites. Alors, ce serait pour éviter d'avoir des poursuites injustes, là.
Incroyable. Monsanto, on se souvient qu'ici, avec l'affaire Perry-Schmeiser, ça avait mal tourné, justement.
Percy,
ça me rentre jamais dans la tête, avait eu gain de cause. Donc, Monsanto avait eu gain de cause. En terminant rapidement, le Mexique cultive du maïs, on s'en doute, mais du maïs BT, du maïs Starling, du maïs...
Eh bien, la nouvelle, dans le fond, que Greenpeace a mise à jour cette semaine, lundi cette semaine, encore bravo à Greenpeace, eh bien, qui a dévoilé une étude secrète. J'aime ça, les études secrètes.
Ah oui,
c'est mystérieux.
Oui.
Une étude secrète de la Commission de coopération environnementale, dont on parle souvent ces temps-ci, une commission de l'ALENA, du traité d'accord de libre-échange nord-américain, eh bien, qui recommande que tout le maïs américain, ou états-unien, pardon, qui entre au Mexique, soit moulu. Je vous explique. En 2003, les États-Unis ont exporté plus de 5,5 millions de tonnes métriques de maïs vers le Mexique et on estime qu'au moins 30% de ce maïs-là serait génétiquement modifié, mais qu'il n'est pas étiqueté. Donc, ce qui arrive, c'est qu'avec les risques de dispersion dans la nature, d'affectation de la biodiversité, eh bien, les chercheurs du CCE de l'ANENA, eh bien, recommandent tout simplement que l'ensemble du maïs états-unien, vu qu'il n'est pas étiqueté, eh bien, qu'il soit moulu. Comme ça, il ne pourra pas avoir de germination et contaminer les champs mexicains.
Et là, attention, on parle du Mexique, le bassin du maïs.
Biodiversité du maïs.
Exactement.
Donc ça, c'était la CCE. Et la CCE, c'est la Commission de coopération
environnementale de l'ALENA.
Merci beaucoup. Qui va compléter la revue de presse, la revue de l'actualité cette semaine. On termine comme d'habitude avec pêle-mêle, en bref, les petites vites cette semaine.
Eh bien, une belle idée à Ottawa. Ottawa qui recommande, dans le fond, dans son futur plan d'urbanisme, un délégué municipal d'Ottawa, qui recommande que les futures rues soient construites plus étroites pour économiser des matériaux, faire en sorte que la densité de population soit plus grande, que ça coûte moins cher à nettoyer, que le transport en commun soit plus efficace. Bravo aux gens d'à côté.
On en parle.
Eh bien, imaginez-vous donc, on a noté une nappe noire, comment on appelle ça, une marée noire, près de Puget Sound, près de Seattle, aux États-Unis. Alors, sur la côte ouest, nappe de quelques kilomètres carrés, et on ne sait même pas de qui elle provient. Une semaine plus tard, on ne sait même pas c'est qui a créé cette fuite de pétrole dans l'océan.
Après ça, il me parle de sécurité, hein?
Eh bien, parlons de pétrole, parlons de changement climatique avec l'Équateur cette fois-ci. On annonçait il y a un mois que le Pérou estimait à 15 ans la survie des glaciers dans les Andes. Eh bien, l'Équateur estime à 20 ans. Pensez pas que c'est la différence de longitude et de latitude. C'est juste que l'étude ne dit pas la même chose. Mais bon, le point est là. Les glaciers fondent. Et puis, c'est les changements climatiques qui provoquent ça. Et puis, l'Équateur dit 20 ans maximum.
Qu'on se le dise, parlons de changement climatique, parlons de gaz à effet de serre. Hein? L'un ne va pas sans l'autre. Dans sa lutte contre l'effet de serre, l'Union européenne se prépare à légiférer contre les automobiles, les frigos et, tenez-vous bien, les chaussures de sport. Ben oui, à l'instar des systèmes de climatisation des automobiles, les réfrigérateurs et les chaussures à coussin d'air contiennent des gaz fluorés jusqu'à 1300 fois plus polluants que le CO2. Qui l'eût cru?
Eh bien, continuons dans la veine des gaz à effet de serre. Eh bien, c'est officiel, on vous en parle depuis longtemps. Cette semaine, la Californie, qui devient officiellement le premier État à légiférer contre les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'automobile. On demande d'ici 2012 à réduire de 25% le nombre d'émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'automobile. Et on a déjà des gens du côté de l'État de New York qui pensent de suivre la même idée.
Ah ben, Godon?
Imaginez-vous donc que le gouvernement fédéral a un projet de loi, le projet de loi C-398, qui veut modifier l'actuelle loi sur l'étiquetage des aliments. Alors, on voudrait en fait que les grandes chaînes de restauration rapide lèvent le voile sur la véritable nature de leurs produits et mentionnent leur valeur énergétique, leur teneur en sel, en gras et ainsi de suite. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que ça nous donne un peu un indice sur les ingrédients et leurs incidences, bonnes ou mauvaises, sur la santé. Mais on ne parle pas d'OGM du tout là-dedans.
Ah, bonne idée, on parle pas non plus de pesticides. Je vous rappelle que lundi, le 18 octobre, une étude révolutionnaire sortait au Québec. En fait, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. C'est juste qu'ici, ni ici, ni au Canada, on n'avait jamais testé les charges corporelles en pesticides. Donc, peut-être qu'on devrait inclure aussi les degrés de pesticides contenus dans les aliments. Quelle bonne idée! Mais nous y reviendrons en deuxième heure.
Vous savez, il y a différents produits auxquels on est exposé. Les pesticides, ça en est un. Il y en a un autre. Les aérosols provenant du spray net et des petits rafraîchissants comme le Glade que tu plugues sur ta plug. Là. Bon, ça, il paraît que c'est dommageable pour la santé. Une nouvelle étude qui est sortie dans le Archives of Environmental Health qui nous dit que ça provoque des maux de tête à répétition, des nausées, des vomissements et la diarrhée, surtout chez les femmes enceintes et les bébés. Donc, si vous êtes enceinte, si vous avez des bébés, peut-être vous départir de votre spray après être allé aux toilettes.
Entre autres choses, lâchez aussi le Tylex dans la salle de bain. Michel Godin nous en parlera tout à l'heure. Ce n'est plus d'actualité, mais ce n'est pas moins grave pour autant. Et c'est pour ça que je vous en reparle. Je vous rappelle qu'en septembre 2004, donc celui qui vient de passer, la Commission mixte internationale remettait son 12e rapport biennal sur la qualité de l'eau des Grands Lacs. Qu'est-ce qu'ils ont dénoté, entre autres, l'invasion d'espèces invasives? Ils ont noté la présence inquiétante de mercure, vous savez, ce neurotoxique puissant qui s'attaque, entre autres, au cerveau, au système nerveux, etc., mais également la présence d'antibiotiques. Et ça, c'était dû à l'usage qui était fait par les humains, mais également à l'usage qu'on faisait quand on les donnait aux élevages bovins, aux élevages porcins. Tout ça se retrouve dans les grands lacs et les usines d'épuration des eaux ne sont pas capables de s'en départir.
Imaginez-vous donc que le ministre de l'Environnement a autorisé le dragage de l'embouchure de la Richelieu. Pas de consultation publique et une petite évaluation environnementale vite faite. On va enlever 70 000 mètres cubes d'eau et on va continuer à creuser pendant 12 ans par-ci par-là pour faire des ajustements.
Eh bien, avec le nombre de décisions douteuses qu'il a pris depuis le début de son mandat, on se demande avec combien de personnes George W. Bush a couché depuis 4 ans. Eh bien, chose certaine, c'est qu'il a couché avec plusieurs représentants de l'industrie chimique. Les industries chimiques aux États-Unis sont dans un état complètement ridicule. Il n'y a aucune mesure de protection. Eh bien, Greenpeace États-Unis, qui cette semaine a décidé d'employer les moyens du président lui-même et de soumettre les futurs électeurs à la notion de terrorisme. Eh bien, oui, les usines chimiques, si elles ne sont pas sécuritaires, sont une cible facile pour répandre, dans le fond, n'importe quel produit chimique dans l'environnement états-unien. George W. Bush, arrêtez de coucher avec tout le monde, puis agissez un peu.
Vous êtes le pire des terroristes. Excusez-moi, j'en profite pour...
Je ne serai même pas réélu, de toute façon.
Oh, j'espère. J'espère aussi que les gens vont se rappeler que c'est la quatrième édition de la Semaine québécoise des déchets du 18 au 24 octobre 2018. 2004, c'est le moment ou jamais de penser à nos consommations, à notre consommation en général, mais surtout comment est-ce qu'on dispose de nos déchets. Il y a des choses qui se recyclent, il y a des choses qu'on peut éviter d'utiliser, il y a des choses qu'on peut composter. Mettez-vous au compost, adoptez des vers de terre, ça va être le fun.
Eh bien, Stéphane Dion, qui lui, dans toute sa sagesse, eh bien, trouve qu'il n'y a aucune utilité à débattre autour de Kyoto. Encore une fois, c'est l'économie qui va tout régler.
Alors, j'espère que vous n'avez pas été trop étourdis par la revue de presse, revue de l'actualité cette semaine. Encore une fois, il a fallu qu'on fasse des choix. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont passées dans le merveilleux monde de l'environnement, mais que voulez-vous? Les choses étant ce qu'elles sont, on doit couper des fois. Cette semaine, je vous le disais tout à l'heure et je vous le redis et je vais vous le redire encore, c'est la semaine de la réduction des déchets. C'est organisé entre autres par Recycle Québec. Sur le site de Recycle Québec, une foule d'informations. Quand vous vous demandez, ça se recycle-tu, ça se recycle-tu pas? Recycle Québec va vous le dire. Le centre des ressources, le réseau des ressourceries du Québec également, donc, sont les organisateurs de cette magnifique semaine-là. Nous, ici, question de mettre la main à la pâte, l'épaule à la roue, en tout cas, se mêler de nos affaires puis parler de déchets. On a décidé de parler d'un type de déchets bien particulier. On n'a pas l'impression que c'est des choses qui sont polluantes. Pourtant, on le sait de plus en plus, les déchets électroniques et plus particulièrement ce merveilleux petit appareil qui, à tout moment inopportun, fait « ring, ring, ring » ou n'importe quelle autre chanson.
Il fait plus de « ring, ring », il chante, il fait du rap, puis il fait n'importe quoi.
On parle des téléphones cellulaires et donc c'est Nicolas Mainville qui nous a monté ce dossier-là sur les déchets électroniques. On sait que dans ses dadas, il y a celui-là.
Quelle belle présentation. Et oui, la semaine prochaine, c'est la convention de Bâle. Vous savez, cette convention des Nations Unies qui régit les produits toxiques qui va se passer à Genève, et puis mais 160 pays, c'est là qu'ils vont se rencontrer pour discuter d'un des nouveaux problèmes émergents de la gestion des produits chimiques et des déchets toxiques, c'est les cellulaires. Vous savez qu'on est rendu avec plus de cellulaires que de téléphones normaux sur la planète, 1,2 milliard versus 1,1, impressionnant. Bien, 1,2 milliard de téléphones cellulaires, vous comprendrez que ça représente quand même une quantité impressionnante de matières premières, de métaux, de plastique et tout le tralala. Et puis, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que l'âge moyen d'un cellulaire d'environ 18 mois. Donc, en Europe puis aux États-Unis, les chiffres qu'on a, c'est qu'après chaque 18 mois, la personne sac son cellulaire dans la poubelle ou en tout cas va faire quelque chose avec et puis ça se retrouve dans l'environnement. Malheureusement, ce cellulaire-là représente une certaine bombe à retardement point de vue environnemental parce qu'elle contient des produits chimiques assez importants. J'en mentionne quelques-uns. Le cadmium, notamment les batteries qui sont faites avec du cadmium, qui sont un des métaux lourds les plus puissants, qui va affecter le système nerveux, entre autres. Le plomb, vous connaissez le plomb, qui affecte notamment le développement des cerveaux des enfants. Le beryllium, une fois qu'on va dégrader les cellulaires, va émettre du beryllium. Les retardants à flamme, ces fameux PBDE, les problèmes bien durs enrayés, qui restent dans les... Je sais pas c'est quoi le vrai nom scientifique, mais bon. Juste tout ça pour dire que ça représente un cocktail chimique assez impressionnant. Et puis que chaque cellulaire, représente une source ponctuelle. Mais ce qui est en train d'arriver, c'est un problème assez décrié dans le monde environnemental en général, c'est que les déchets électroniques et les cellulaires en général vont se retrouver recyclés d'une certaine façon, à être recyclés dans les pays occidentaux. Donc, par exemple, aux États-Unis, environ 40 à 50% des produits, des déchets électroniques qui sont recyclés, entre parenthèses. Ce qu'on va faire avec ces produits-là, à 80%, c'est qu'on va les exporter en Chine, en Inde et au Pakistan pour les recycler. Et là, vous voyez mes doigts avec des gros guillemets, c'est incroyable, j'ai jamais vu des aussi gros guillemets, parce que on se retrouve en Chine, au Pakistan et en Inde avec des dépotoirs à ciel ouvert, où est-ce que il y a des milliers de personnes, en fait, il y a même une ville en Chine à 100 000 habitants qui travaillent jour après jour jours sur ces déchets-là. C'est en fait une source d'économie comme telle, une source d'argent pour ces gens-là, parce qu'on va isoler les différents composants des déchets électroniques. Donc, que ce soit les écrans cathodiques pour les ordinateurs, tout le plastique, le métal. Donc, avec ça, on va se retrouver avec différents compartiments, et puis on va évidemment exposer les populations là-bas à des quantités impressionnantes de contaminants. Donc, ce qui est en train d'être décrié par les différents groupes activistes, notamment la Basel Action Network, donc le réseau d'action de Bâle, en lien avec la convention de Bâle, c'est de dire, écoutez, il faut absolument interdire l'exportation de ces déchets dangereux-là. Il faut négocier avec ça, mais c'est surtout, il faut développer un système de recyclage adéquat et il faut réduire les niveaux de contaminants dans ces produits-là. Donc, c'est ce qui va se discuter la semaine prochaine et c'est ce qui va surtout nous porter, nous, en tant que consommateurs nord-américains riches et bien nantis, à réfléchir sur nos niveaux de consommation. Si vous êtes pris avec des déchets électroniques chez vous, il y a différents programmes de réutilisation de ces produits-là, mais surtout, pensez à l'âge de vie de vos... l'âge de vie, ça se dit pas. La durée de vie de vos produits. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un nouveau produit? Et est-ce que vous pouvez pas, entre autres, le léguer à quelqu'un d'autre qui va l'utiliser au lieu de souiller dans les poubelles?
Bonne idée, belle conclusion. Merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. D'un autre dossier au retour, on parle de matières résiduelles, d'empreintes écologiques, mais on vous revient avec ce dossier duquel on ne parle pas suffisamment, l'industrie viandeuse. Retour à Délirium environnemental. On vient d'entendre Jérôme Minière qui nous chantait « Mon truc à moi, c'est de vous vendre des cochonneries ». Entre autres cochonneries, écoutez, on ne vous parlera pas tout de suite de viande, si vous permettez. Justement, tout va toujours trop vite dans la vie, particulièrement en termes d'informations. On essaie tout le temps d'aller vite, mais des fois, il y a d'autres choses à dire. Entre autres choses à dire, ben sur le sujet des cellulaires, je pense que c'est un problème qui mérite notre attention parce que c'est de ces produits qu'on développe comme ça sans nécessairement faire attention aux conséquences, aux impacts qu'ils ont. Entre autres sur la santé humaine. Nicolas Milo, tu as lu un petit quelque chose pour nous là-dessus?
Mais oui, vous voulez une bonne raison de ne plus utiliser le téléphone cellulaire. Je vous en donne une. L'Institut de médecine environnementale, très intéressant qu'on ait médecine et environnement dans la même phrase, de l'Institut Karolinska de Stockholm, en fait, dans le fond, une recherche sur 604 patients. Et ils ont étudié quelque chose qui s'appelle le neurinome acoustique. C'est, dans le fond, un cancer du conduit acoustique. Eh bien, ils se sont rendus compte que, dans le fond, il n'y avait pas davantage d'utilisateurs de cellulaires qui en avaient, qui démontraient un cancer comparativement à une personne qui n'utilise pas le cellulaire, sauf quand on commence à regarder, quand ça fait plus que 10 ans que vous utilisez un téléphone cellulaire. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y a deux fois plus de personnes qui développent ce cancer-là, qui est quand même un cancer relativement rare. C'est 10% des tumeurs cérébrales sont de ce type-là. Eh bien, les utilisateurs de cellulaires, ceux que ça fait longtemps qu'ils utilisent un cellulaire, là, on se rend compte que c'est beaucoup plus propice à l'apparition de ce cancer-là. Donc, enfin, on a une petite étude qui nous dit, regardez là, il faut regarder à long terme, et quand ça fait longtemps qu'on utilise quelque chose comme un téléphone cellulaire, eh bien, c'est là que les maladies peuvent apparaître.
Et encore mieux, paraît qu'on mentionnait aussi dans cette étude-là que on avait détecté ça si on faisait les calculs en évaluant selon l'oreille où la personne utilise son cellulaire, on apercevait que les taux étaient encore plus élevés.
Ben, détail, c'est quoi? La personne parle tout le temps de l'oreille droite, puis ils sont allés calculer l'oreille gauche, c'est des compagnies
pour voir
qui font
s'il
ça.
Y avait développement de ce cancer-là de l'autre côté.
Mais
ce qui est intéressant avec ces études-là, c'est justement de voir qui finance les études. Ça fait longtemps qu'on entend le débat, est-ce que le cellulaire est dommageable pour le cerveau ou pas? Est-ce que tu as vu si cette étude-là était indépendante ou financée par...
Le financement de l'étude, je ne l'ai pas vu. Ouais. C'est souvent quelque chose qui est très peu présent dans la nouvelle qui est médiatisée, malheureusement.
Pour le moment, on s'attaque dans cet article-là au téléphone analogue, alors que la plupart des technologies de téléphone sont devenues digitales dans les dernières années. Mais c'est encore à réfléchir, et puis ça nous amène surtout à réfléchir aussi à tout ce qu'il y a en termes de développement d'Internet sans fil aussi. On devrait peut-être se questionner un peu là-dessus et voir s'il y a quelque chose à évaluer.
C'est pratique, mais en même temps, ça fait les deux études qu'on vient de parler, donc toi, Nicolas, qui nous parlait, dans le fond, des déchets qui sont créés par l'utilisation abusive du téléphone cellulaire, et moi, l'autre Nicolas, qui vous amène l'étude sur les impacts sur la santé humaine, mais ça nous montre qu'on a un choix à faire. Entre autres, quand on consomme de tels produits, qu'on, dans le fond, on choisit facilité versus pas seulement l'environnement, mais notre santé à nous-mêmes.
Non, mais à court terme, notre santé, à long terme, notre santé, l'étude de laquelle tu nous parlait d'impact, mais Nicolas Mainville nous parlait également de ces métaux lourds et des impacts qu'il y avait sur la santé. C'est jamais à négliger, ça.
C'est incroyable. Il nous disait que chaque cellulaire représente une contamination seulement en cadmium de 600 000 litres d'eau, juste à cause de la batterie qu'il y a pour un cellulaire. Donc, imaginez la quantité d'eau qui peut être contaminée avec ces cellulaires-là. Moi, ce qui me saute encore plus aux yeux, c'est qu'on exporte ces produits-là, ces déchets-là, puis on exporte nos problèmes avec ça. C'est ça qui me frappe. Et je veux dire, on est en train de négocier avec nos problèmes de santé, mais évidemment, le fait qu'on soit capable d'établir des systèmes d'exportation de problèmes, c'est quand même assez impressionnant.
Mm-hmm. Peut-être fait intéressant à mentionner, le Canada en ce moment est probablement un des derniers pays là, sur la liste des utilisateurs de téléphones cellulaires. En Europe, c'est beaucoup, beaucoup de loin plus utilisé. Aux États-Unis aussi, et en Asie, ça dépasse toutes limites.
Il y a plusieurs pays aussi où est-ce que les gens se mettent au téléphone, où est-ce que les lignes téléphoniques ne sont pas développées, donc ils optent pour la technologie cellulaire. Ça aussi, c'est justement soit des économies en émergence qui vont opter plutôt sur le cellulaire directement. Ce serait un autre phénomène à observer.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des différents gouvernements, notamment en Angleterre, qui sont en train d'établir des systèmes de récupération de ces cellulaires-là. Donc, on a hâte de voir émerger ces programmes de récupération et de recyclage efficace et utile de ces pots cellulaires.
Bien, merci beaucoup de nous avoir entretenus de ce problème-là. Pour ceux qui voudraient se débarrasser soit de leur cellulaire ou encore de leur ordinateur, le réseau des ressourceries ou encore l'éco-quartier de votre quartier est à même de vous aider. Autrement, je vous répète que sur le site de Recyc Québec, vous avez plusieurs informations pour savoir où vous départir de ces objets dont vous n'avez plus besoin.